Le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le trac avant d'entrer en scène et la gourmandise des spectateurs. Puissance 1000 cette année entre les remparts d'Avignon. Renaissance du plus gros festival de théâtre de France. Aujourd'hui, nous y sommes dans un instant. Des bateaux à moitié vides, mais là aussi, c'est la reprise. Escale à Marseille hier pour deux gros navires de croisière. Des mois que ça n'était pas arrivé, nous sommes à bord. Et avec les vacances, la fermeture de certains centres de vaccination, malgré la quatrième vague redoutée cet été, et le problème des soignants pas assez vaccinés, l'obligation dans les cartons. Le gouvernement va consulter cette semaine et on en parle tout à l'heure avec l'invité du grand entretien.
Oui, aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à notre micro avec Léa d'ici 20-22 minutes. Vous pouvez nous appeler, le standard vous attend, 01 45 24 7000.
Dans 15 jours, il sera dans l'espace, si tout va bien. Jeff Bezos quitte Amazon, aujourd'hui l'entreprise qu'il fonda il y a 27 ans et qui a fait de lui l'homme le plus riche du monde. Dans ce journal aussi, 4 nuances de vert comme 4 candidats désormais à la primaire écolo. Ces chansons qui font la contestation, Protest Song, nouvelle série, tous les lundis, ici même aujourd'hui un rap palestinien et 8000 km sur un paddle, l'histoire de ces 4 copines qui veulent traverser le Pacifique debout sur leurs planches.
France Inter.
Avec tambours et trompettes, évidemment, jamais Festival d'Avignon n'ouvrira avec autant de bonheur qu'aujourd'hui. 75e édition, levée de rideau. Après plus d'un an de marasme, le festival annulé l'été dernier reprend pleine jauge. Vous y êtes, Stéphane Capron, bonjour.
Bonjour Florence.
Alors prêt pour un mois de théâtre ou presque, Stéphane, ce sera la fête, mais sous contrôle, hein.
Oui, Avignon sera à partir de midi la seule ville de France où le masque fera son retour en extérieur. Il sera obligatoire dans les rues à l'intérieur des remparts jusqu'à 2h du matin avec des contrôles de police que l'on annonce bienveillants. Et dès ce soir dans la cour, les 2000 spectateurs devront montrer le pass sanitaire. Mais les artistes et le public ont surtout envie de se retrouver, de faire la fête, de célébrer le théâtre. La direction du festival a tout mis en œuvre pour que la sécurité soit maximale. Olivier Pie, son directeur, veut faire d'Avignon un exemple pour que les lieux de culture restent ouverts, même en cas de quatrième vague.
On sait le faire maintenant, donc il ne faut plus jamais que les théâtres ferment. De toute façon, il ne faut jamais que les théâtres ferment. Il ne faut jamais empêcher un spectacle. Il faut que le rideau se lève. C'est une victoire sur la mort, c'est une victoire sur la négation, c'est une victoire sur la bêtise avant toute chose. Donc il ne faut jamais empêcher un spectacle. Il faut faire tout pour que le rideau se lève. Quand le rideau se lève, c'est toujours un miracle, c'est toujours une victoire. C'est exceptionnel qu'un rideau se lève dans l'histoire de l'humanité. Donc il faut tout faire pour, c'est sacré.
Et ce soir, le rideau se lèvera à 22h sur Isabelle Huppert. C'est elle qui fera vibrer la cour d'honneur du Palais des Papes, Stéphane, dans la Cerisaie de Tchekhov.
Et pour la première fois de sa carrière, eh bien, elle joue dans une pièce de Tchekhov, la dernière écrite par l'auteur russe, une mise en scène de Thiago Rodriguez. Et je vous propose, Florence, en exclusivité, un petit extrait d'Isabelle Huppert sur scène dans la cour d'honneur.
Réfléchissez un peu, montrez ne serait-ce qu'une once de générosité. Épargnez-moi. Moi, je suis née ici. C'est ici qu'ont vécu mon père et ma mère, mon grand-père. J'aime cette maison. Je ne comprends pas ma vie sans la Cerisaie. Et s'il faut décidément vendre, eh bien, qu'on me vende avec la Cerisaie.
Et puis, à partir de mercredi, le off a débuté avec 1070 spectacles. Il y en avait 1592 en 2019, avec toujours l'envie de montrer la vitalité et la diversité du spectacle vivant en France.
Voilà, avec une quarantaine de spectacles dans le IN. Stéphane Capron, en direct d'Avignon, merci et bon festival.
Il est 8h04, autre ambiance maintenant.
Celle de ces paquebots géants qui reprennent du service en Méditerranée. Les croisières sont de retour après 16 mois d'intervention. Deux navires en escale dans le port de Marseille hier. Quelques milliers de passagers embarqués sans faire le plein. Parmi lesquels, Philippe Lefebvre pour France Inter. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Alors où êtes-vous ?
Et oui, nous sommes au large des côtes espagnoles et dans quelques heures, les passagers vont débarquer pour leur première escale. Et ces passagers, ils sont à peine 3000, c'est-à-dire moitié moins que d'habitude sur un tel navire. La raison, bien sûr, le protocole sanitaire mis en place avec les autorités italiennes, puisque le paquebot est immatriculé en Italie. Des passagers qui, même avec le pass sanitaire, ont dû se soumettre à un test antigénique avant l'embarquement. Ils doivent également porter le masque quasiment partout et chaque jour, ils doivent contrôler leur température. Des mesures qui ne rebutent pas ce passager parisien.
On profite malgré tout de la fin du confinement pour pouvoir se sauver, parce que si on remet un confinement à la rentrée, on en profite et porter le masque, qu'on le porte en ville ou qu'on le porte dans le bateau, ça sera pas pire.
Alors 3000 passagers au lieu de 6000, Philippe, évidemment ça n'est pas rentable pour la compagnie.
Non, bien sûr, mais l'idée est surtout de faire revenir les passagers sur les bateaux pour les compagnies qui ont perdu beaucoup d'argent ces 16 derniers mois. On évoque le chiffre de 70 milliards de dollars pour l'ensemble des compagnies et la rentabilité viendra après, c'est ce que m'a expliqué Raffaele D'Ambrosio, le vice-président de Costa Croisière.
La vérité est qu'il n'y a pas en ce moment un focus important sur la rentabilité, dans le sens qu'on veut effectivement reprendre, faire notre démarche et après, en toute progressivité, récupérer notre normalité pour ce qui concerne les éléments du business.
Et nouvelle encourageante, pour l'été, les bateaux seront tous quasiment pleins. À bord du Costa Smeralda, Philippe Lefebvre, France Inter.
Et qui dit vacances dit baisse de la fréquentation des centres de vaccination. Certains vont donc fermer. Un quart des centres en Ile-de-France en moyenne, plus de la moitié dans les Yvelines. Chatou, ville de 30 000 habitants, verra le sien baisser le rideau dans une semaine, Alice Cachaner.
Depuis quelques temps, dans ce gymnase reconverti en centre de vaccination, la fréquentation a bien baissé.
Ben oui, il y a des moments où il y a des creux.
Ici, la plupart des patients viennent pour leur deuxième dose et les primo-vaccinés, eux, se font de plus en plus rares.
On ne les voit pas, c'est-à-dire que là, pour le moment, ils ne viennent pas.
Delia Edouard, la responsable du centre.
On a atteint un petit peu le plafond de verre, c'est-à-dire toutes les personnes qui voulaient se faire vacciner. D'habitude, vous voyez, on avait à peu près presque 300 premières injections le matin. Là, cette semaine, on est à 49 premières injections.
S'ajoutent à cela les départs en vacances des patients, mais aussi des médecins, comme l'explique le maire de Chatou, Éric Dumoulin.
Là, nous sommes vraiment, je pense, au niveau du département dans une logique de rationalisation. On sait qu'on va avoir une chute massive du personnel médical présent.
Conséquence, les patients seront dirigés vers quatre gros centres du département qui resteront ouverts tout l'été. Une nouvelle organisation qui laisse certains habitants perplexes.
Je ne comprends pas qu'on arrête un centre de vaccination. Voilà, bon, d'accord, il y a des vacances. Le principal, c'est de se faire vacciner parce que sinon, au mois de septembre, avec le Delta, ça va être encore plus compliqué.
L'Agence régionale de santé en Ile-de-France assure que malgré ces fermetures, l'offre vaccinale sera maintenue à hauteur de 82% cet été.
Il n'était pas propice à la vaccination. Pourtant, il faut accélérer, alerte le gouvernement. Depuis 5 jours, les contaminations ne baissent plus, s'inquiète Olivier Véran, qui redoute une quatrième vague dès la fin du mois. Message alarmant qui s'accompagne de cette question à trancher rapidement. Faut-il contraindre les soignants à se faire vacciner? Le gouvernement va consulter les représentants des partis à l'Assemblée cette semaine et des élus locaux pour que la décision fasse consensus.
Il est 8h08, eux sont tous d'accord sur le papier.
Oui, ils se réuniront derrière le vainqueur et non, ils ne rejoueront pas la guerre fratricide. Les écolos se projettent au mois de septembre, ce sera leur primaire. 4 candidats déclarés. Le dernier, c'est Jean-Marc Governatori, co-président de Cap Écologie. Sandrine Rousseau, Éric Piolle et Yannick Jadot sont les 3 autres qui réunissaient leurs troupes ce week-end. Ambiance avec Laurence Perron.
Les piolistes l'assurent, le maire de Grenoble ne mène pas une campagne de père fouettard de l'écologie. Il incarne la voix de l'espoir. C'est d'ailleurs écrit en gros sur le badge que porte Nicolas, 36 ans, développeur informatique.
Moi, je suis arrivé chez Les Verts, mais suite à une déception que je ne veux pas trop détailler parce qu'il y a des amis que je n'aimerais pas froisser.
Un ex-insoumis, donc. On en trouve assez peu chez les partisans de Yannick Jadot, toutefois.
Moi, j'ai beaucoup de copains et de copines qui sont avec Piolle, avec Rousseau, et je les adore.
Pierre-Emmanuel Ross, étudiant.
Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul candidat qui a réussi à acquérir cette visibilité auprès des médias pour que les gens s'identifient à une personne qui puisse gouverner.
Mais ne faites pas dire aux jadistes que l'eurodéputé incarnerait une candidature du système, voire une candidature droitière. Jacqueline Markovitch, toute 9 conseillère départementale de l'Hérault.
Tout son engagement parle pour lui. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a été altermondialiste, qui a été activiste chez Greenpeace. Donc il suffit de regarder son parcours, on voit très bien où il se situe et ce qu'il porte.
Chez Sandrine Rousseau, Claudine et Marion admirent la radicalité d'un écoféminisme qui doit désormais s'imposer.
L'écoféminisme est véritablement du féminisme.
Après, il y a un programme commun, c'est sûr, et chaque candidat devra porter le programme. Donc est-ce que la patte de Piolle, ça sera l'écoféministe et de Jadot? Je n'en mettrai pas ma main au feu.
Fin septembre, les écologistes le jurent. Tous et toutes seront unis, quoi qu'il arrive, derrière celle ou celui qui aura emporté la primaire.
Laurence Perron, Total ne veut plus être accusé de déforestation. Le groupe rebaptisé Total Energy va donc arrêter l'huile de palme à partir de 2023, notamment utilisée à la raffinerie de Lamed pour produire du biocarburant. Et lui aussi se pique d'écologie. Jeff Bezos et ses millions de livreurs Amazon à travers le monde n'a pas contribué à la sauvegarde du climat jusque-là. Mais l'homme le plus riche du monde va avoir le temps puisqu'il quitte quitte la direction de l'entreprise aujourd'hui pour se consacrer à d'autres passions. L'espace, notamment, il s'y envolera dans 15 jours et méditera sans doute sur le chemin parcouru, Loïc Piala.
Un exemple du rêve américain, un de plus, celui d'un geek élevé par un réfugié cubain et une mère qui a accouché quand elle était encore lycéenne. À la sortie de Princeton, l'une des universités les plus prestigieuses du monde, Jeff Bezos tente sa chance à Wall Street à 30 ans. Il sent le potentiel d'Internet, quitte la côte Est en voiture, direction Seattle de l'autre côté du pays. Il investit les économies de ses parents dans Kadabra, comme Abracadabra, qui devient vite Amazon. Au départ, lui et sa dizaine d'employés déposent eux-mêmes les livres commandés à la poste, des livres préparés dans son garage, comme il explique en recevant le prix Axel Springer.
On était mal préparés, tous les ingénieurs, y compris moi, on s'occupait des emballages, mais on n'avait pas de table. On faisait ça à genoux, à même le sol.
Amazon entre en bourse dès 1997 à $18 l'action. Deux ans plus tard, le groupe pèse déjà 30 milliards de dollars, mais Bezos roule toujours dans une modeste Honda, image restée célèbre d'un reportage de l'émission 60 Minutes.
Je veux vivre ma vie de sorte qu'à 80 ans, j'aurai minimisé le nombre de mes regrets.
Les premiers profits n'arrivent qu'en 2002, mais aucun investisseur n'a jamais eu à se plaindre, à la différence de certains employés ou du trésor public. Aujourd'hui, le géant vaut 1700 milliards de dollars et écrase le marché. Bezos peut partir tranquille sur sa fusée Blue Origin qui décollera le 20 juillet prochain ou sur son yacht de la taille d'un terrain de football. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
En Floride, l'immeuble qui s'est effondré il y a 10 jours a été rasé hier soir. Mesure de précaution avant le passage d'une tempête tropicale qui menaçait ses ruines, sous lesquelles 121 personnes serait toujours enseveli. Dans les Alpes, il va falloir pousser les murs si ça continue. Les refuges de migrants à la frontière italienne sont débordés par les arrivées à la faveur de l'été. Les associations demandent de l'aide à la préfecture des Hautes-Alpes. Reportage au refuge de Briançon, signé Thibault Lefebvre.
Des matelas sont disposés dans le couloir à l'étage de cette ancienne caserne de CRS car le refuge déborde.
On est un accueil inconditionnel, donc oui, il y a des matelas dans le couloir. Le soir, il y a des matelas dans le réfectoire.
C'est justement dans le réfectoire que les exilés qui ont traversé la frontière franco-italienne la nuit précédente arrivent au compte-gouttes. Ils sont ce matin-là 22 de plus, dont 3 familles et 5 enfants. Alors que Pauline Ray, la coordinatrice au refuge solidaire, héberge tous les soirs près de 70 migrants.
En ce moment, on est toujours plein, ouais. On accueille 600 personnes en un mois. Sachant que le pic, c'était en juillet 2018 et on était à 718. C'est l'été, donc la neige, mine de rien, ça joue sur si les gens arrivent à passer, ce genre de choses. Donc là, je pense que cet été, on va accueillir pas mal de monde.
Les exilés de passage à Briançon viennent d'un autre refuge, à Oux, à une trentaine de kilomètres de l'autre côté de la frontière. Là aussi, les 60 lits sont occupés. Sylvia Massara est bénévole.
Il y a des femmes qui sont au 9e mois, qui risquent d'accoucher dans la forêt. L'autre jour, un homme sans une jambe est passé, avec d'énormes béquilles. Mais ils sont absolument déterminés, ils partent chaque soir.
Tous les soirs, une soixantaine de migrants tentent de traverser la frontière. Entre un quart et un tiers d'entre eux arrivent en moyenne à échapper à la police pour rejoindre Briançon.
Le pape François a bien réagi à son opération communiquée du Vatican hier soir après son hospitalisation et une intervention pour une inflammation du côlon. Le pape a 84 ans, il a subi une anesthésie générale.
Du son maintenant, il est 8h13 pour accompagner la contestation.
C'est la série que nous allons vous proposer tous les lundi cet été, Protest Song ou le tour du monde de la colère. Première étape ce matin à Jérusalem avec le succès viral d'un titre de rap palestinien devenu l'hymne des manifestants lors du conflit qui a secoué le Proche-Orient au mois de mai. Cyril Sauvageau.
C'est de là que tout est parti en mai dernier, le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. La jeunesse palestinienne s'embrase avec en fond sonore un titre de rap, Inan, c'est le moment. Signé Dabour et Chabji, deux rappeurs de Jérusalem, le texte témoigne du climat de tension qui règne alors. Et boum, la guerre a frappé chez nous. Nous sommes les enfants de Jérusalem, nous allons régler la question. Mélange de colère et de résignation, le morceau trouve un écho tout particulier dans le mouvement et se répand comme une traînée de poudre via les réseaux. Il totalise bientôt 15 millions de vues sur YouTube. À chaque épisode récent du conflit au Proche-Orient, le rap palestinien a joué un rôle. Ici, ce sont les pionniers du groupe Dam, révélés au début des années 2000, au moment de la deuxième intifada. Depuis, toute une scène locale a essaimé, que ce soit dans les villes mixtes d'Israël, en Cisjordanie ou à Gaza. dernier phénomène en date, ce rappeur de 13 ans, MC Abdul, qui rappe en anglais sur un instru d'Eminem dans les rues de Gaza en ruine après les bombardements. Aucun doute, la relève est assurée.
Protest Song, signé Cyril Sauvageau. Sur le Tour de France, c'est relâche aujourd'hui. Repos après 9 étapes éprouvantes pour les coureurs. Celle d'hier dans le froid et sous la pluie dans les Alpes fut épouvantable. C'est l'Australien Ben O'Connor qui l'a remporté, mais dans son maillot jaune, Tadej Pogacar a encore creusé l'écart. Enfin, quelle idée ! C'est souvent notre première réaction quand on nous parle d'un défi. Celui-là ne fait pas exception. Quelle idée de vouloir traverser l'océan Pacifique en paddle. Eh bien, c'est celle de quatre copines des Landes. Elles s'y préparent pour l'hiver 2022-2023. 8000 kilomètres à la pagaie debout pour récolter des fonds en faveur d'une association qui œuvre pour les enfants malades. Lou Bourdi les a rencontrées.
Imaginez-vous sur un paddle, en pleine mer, seule sur une planche, en plein milieu du Pacifique. Eh bien, c'est ce qui va se passer pour Alexandra Lux, championne du monde de sauvetage, et ses trois amies. 800 kilomètres, ça veut dire environ 3 mois de traversée. Les quatre rameuses vont se relayer jour et nuit.
Si jamais on a besoin pour des raisons de sécurité ou pour des raisons de récupération, par exemple, si c'est vraiment trop dangereux au niveau des conditions météo, on laissera passer le coup de vent. Et ensuite, dès que les conditions de sécurité sont réunies, on repartira de ce point GPS.
Ramer en continu, sous de grosses chaleurs, avec juste un voilier à leur côté pour se reposer quand elles ne rament pas. Et est-ce que ça fait peur ?
Alors, toujours un peu quand même.
Surtout contre les expéditions précédentes et celle-ci, certaines rameuses sont devenues mamans.
Donc forcément, on ne part plus la tête, je dirais, tranquille ou exclusivement pour cette traversée. On laisse aussi nos familles, donc surtout sur le Pacifique, énormément d'animaux marins, pas forcément les plus sympathiques. Donc forcément, on a toujours ces petites idées qu'on a toujours dans un coin de tête.
Elles pourront quand même envoyer des mails à leur famille le temps de la traversée. La préparation mentale d'ailleurs a déjà commencé. Préparation physique aussi avec le CERS de Cap-Breton.
Et elles n'en sont pas à leur premier coup puisqu'elles ont déjà rallié le Canada à la France en 2009 et qu'elles sont même passées par le Cap Horn en 2015. Voilà, donc
merci,
bon courage.
Merci Florence Paracuellos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et le pays, Marie-Pierre, est coupé en deux dès ce matin.
Et oui, Nicolas, alors que la moitié sud s'est réveillée sous le soleil, excepté entre la Gironde et les Landes, avec quelques grisailles matinales qui vont vite se dissiper. Au nord de la Loire, une perturbation est arrivée dans la nuit et continue d'arroser les régions de la Bretagne, aux Charentes, à la Normandie, au centre, à l'Île-de-France, à la Champagne-Ardenne, aux frontières du nord-est, sous des températures encore contrastées entre les 10 à Mende, 12 à Lannion, mais déjà 25 à Bastia et 22 à Antibes. Vous avez 14 à Lille et Aurillac, 16 à Strasbourg et 19 à Biscarrosse.
Et arrivée d'une deuxième perturbation cet après-midi.
Et oui, avec un coup de vent d'ouest, hein, Nicolas, sur la Bretagne, soufflant 80 km/h dans l'après-midi, se renforçant cette nuit à 100 km/h sur le Finistère et les côtes de la Manche, et jusqu'à 80 à l'intérieur du pays, avec quelques éclaircies quand même sur le nord-est, alors qu'au sud de la Loire, ce sera l'été, avec des valeurs aussi contrastées entre le nord et le sud, pas plus de 17 à Quimperlé, 18 au Havre, 20 à Lille et Nantes, 22 à Nancy, 25 à Bourges, 26 à Nice et Limoges, vous aurez 27 à Clermont-Ferrand, 29 à Bordeaux et Hendaye, 30 à Apt comme à Calvi, 31 à Avignon et Toulouse, 32 à Marseille et 34 à Céret dans les Pyrénées-Orientales.
Merci Marie-Pierre et à tout à l'heure. Vous écoutez France Inter, vous avez bien raison, 8h19.